négresse qui danse encore à minuit, dansera jusqu'à l'aurore, jusqu'à midi, jusqu'à l'autre nuit. La négresse qui danse encore à minuit, dansera jusqu'à l'aurore, jusqu'à midi, jusqu'à l'autre nuit. Bandée les yeux clos, elle parcourt un beau pays où la tendresse se mêle à la colère. Elle sera toute surprise après la danse, après l'ivresse, de retrouver la rue froide, la nuit précoce et ses draps froids. La négresse qui danse encore à minuit dansera jusqu'à l'aurore, jusqu'à midi, jusqu'à l'autre nuit. La négresse qui danse encore à minuit dansera jusqu'à l'aurore, jusqu'à midi, jusqu'à l'autre nuit.
J'ai le plaisir maintenant, pour cette deuxième partie de Liberté sur Parole, d'accueillir Michel Arbat. Bonjour.
Bonjour.
Alors Michel Arbat, on ne vous présente plus, parce que d'abord on vous entend dans chaque émission de Liberté sur Parole, puisque c'est vous qui chantez sur le générique. Ah, voilà, la fameuse négresse qui danse, c'est un poème que vous avez mis en musique, un poème de Desnos. C'est le premier disque que j'ai découvert de vous, mais il y en avait peut-être avant d'ailleurs.
Oui, il y en a eu quelques-uns avant.
Ouais, oui. Ouais. Oui. C'est combien de temps que vous chantez maintenant ?
Oh là là, depuis 14-18 au moins.
Ouais.
C'est toujours un drôle d'effet, parce que là j'ai la voix dans les chaussettes et d'entendre, c'est le miracle de la radio, d'entendre à 9h du matin des gens chanter avec un entrain, une voix éclatante, etc. Alors qu'on est à peine en train de sortir des limbes, voilà.
Enfin bon, moi je vous ai vu en concert samedi soir, la voix était là, la pêche oui. aussi, et on imagine bon. Que pour le prochain concert, vous serez parfaitement en forme.
Oui, 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 ça revient, c'est...
Voilà, c'est ça.
C'est les cycles de la journée, oui.
Enfin, entre-temps, vous n'avez pas répondu, hein. Ça fait combien de temps que vous chantez ?
Ah, ça fait combien de temps ? Bah écoutez, je n'ai pas calculé...
Enfin, ça fait un petit moment.
Ça fait un moment, ça fait plusieurs décennies, en tout cas, ça a commencé dans les années... fin des années 70, on va dire, voilà. Mmh. Ouais.
Qui est une passion qui ne vous a jamais quitté. Vous avez fait d'autres métiers ou pas du tout? Non, c'est la musique,
j'ai fait des j'ai fait des métiers si temporairement. J'ai fait quelques métiers. Dans ma bio officielle, je dis que j'ai été révolutionnaire professionnel pendant quelques mois.
Ça, vous en parliez poseur. Dans le bouquin sur votre père. Hein, on en avait parlé ici d'ailleurs.
Voilà que j'ai pendant quelques jours posé des judas optiques sur des portes et été aussi soudeur à l'arc pendant 2 ou 3 ans. Voilà.
Mmh. Enfin, pour voilà, c'est quand même le vrai métier, c'est la musique et c'est aussi l'écriture. D'ailleurs, je crois que votre livre que j'avais découvert en même temps que l'album du générique, Le Moulin du Parolier, vient de reparaître aux éditions.
Oui, ça vient de paraître chez Jean-Pierre Huguet, considérablement agrandi, augmenté, parce qu'en fait. La première édition de ce livre remonte à longtemps, presque 20 ans, c'est ouais. 95. Et puis, bon, il y a eu plusieurs éditions successives. À chaque fois, j'ai remanié, j'ai changé des petits détails. Et puis, là, ça faisait depuis peut-être, je sais plus quand, c'était 2002 ou 2003, la dernière édition. Et là, en arrivant au bout, je me suis dit, il faudrait vraiment, d'une part, mon propre travail, ma propre réflexion sur l'écriture avait avancé. Il y avait des choses que j'avais envie de dire qui n'étaient pas dedans. D'autre part, je me disais aussi que les exemples que j'avais choisis étaient peut-être pour les jeunes générations un peu inconnues, tout simplement, parce qu'il y a un problème de transmission, je pense, assez important en France, à la fois sur la poésie, sur la chanson. C'est-à-dire beaucoup de jeunes considèrent Cabrel ou Bachung comme des choses complètement ringardes et dépassées, ou les ignorent tout simplement, ne les connaissent pas.
Ouais.
À la rigueur, ils connaissent plus Brassens que Bachung ou Cabrel, parce que Brassens fait partie du patrimoine ouais. maintenant, qu'ils vont le trouver, enfin qu'il y a des hommages et des choses comme ça. Et donc j'ai essayé de trouver aussi tout un corpus d'exemples plus proches d'eux, en essayant de trouver dans la jeune génération, dans ce qu'il y avait de mieux dans la jeune génération. Et puis enfin j'ai écrit 5 nouveaux chapitres complètement nouveaux, enfin des chapitres sur des questions de méthode un petit peu, d'écriture, voilà.
Alors il y a des trucs, il y a des recettes pour faire des tubes.
Non, ça d'ailleurs j'y consacre même un petit passage en disant qu'il n'y a pas de recette pour faire des tubes. Heureusement, personne n'a jamais su comment on faisait un tube. Puis plein d'histoires dans l'histoire de la chanson, ouais. Plein d'exemples témoignent exactement du contraire, c'est-à-dire de chansons promises à voilà, au beat intégral et qui sont devenus des succès énormes. C'est ce qui prouve la clairvoyance des directeurs artistiques. Voilà. Donc il faut pas, ce livre est pas du tout, de toute façon, c'est une ambition, je crois. Personne ne peut avoir cette ambition, je crois. Ce serait complètement déplacé. C'est un livre plutôt qui analyse les règles d'écriture dans la chanson. Mais je veux dire, avant que ce livre existe, ça n'a pas empêché des milliers de chefs-d'œuvre d'exister. Donc, il faut pas trop compter là-dessus pour ramasser la timbale, quoi.
Moi, je l'ai lu en 95, ce livre. J'ai absolument tout oublié. Et en plus, j'ai pas du tout lu la dernière version. Mais en vous voyant chanter, j'ai crois que j'ai compris une chose, c'est qu'il faut aimer ce qu'on fait. Et à vous voir, vraiment, dans un vrai bonheur de dire ces mots, de se laisser entraîner, de jouer avec le langage, de jouer avec le public. Je pense que ça, c'est une grande partie de la réussite, non?
Écoutez, de la réussite,
en tout cas,
ça
marche.
En tout cas, c'est le moteur des choses. Et j'ai oublié de rajouter une petite chose, c'est qu'il y a justement, il y a dans cette nouvelle édition une petite préface d'Anne Sylvestre, et c'est exactement ce qu'elle dit, quoi. C'est-à-dire, elle dit à la fois qu'elle retrouve dans ce livre toutes les choses qu'elle faisait spontanément, mais qu'elle peut mettre des mots dessus. Mais elle dit, il y a une chose qu'on ne peut pas vous apprendre, c'est ça, quoi. C'est l'amour des mots, la passion de la chose. Ça, et puis, la passion spécifique qu'a chacun, la couleur particulière avec laquelle chacun va vivre cette expérience, quoi. Voilà.
Vous évoquiez à l'instant Brassens, dont on nous rebat les oreilles avec des hommages. Eh ben, vous l'avez fait, votre hommage à Brassens, vous aussi.
Oui, on l'a fait quand même. On l'a fait malgré le jubilé. Et en fait, comment ça s'est passé? C'était un petit peu indépendant au départ de... En fait, on avait été sollicité par un festival Brassens, ou du moins par une amie proche d'un festival Brassens qui nous disait « Pourquoi vous faites pas un truc sur Brassens ?» Enfin, quand je dis « vous », c'est moi et Olivier Roman Garcia, le guitariste avec qui je fais duo maintenant depuis plusieurs années, et qui lui aussi avait traité pas mal de thèmes de Brassens instrumentalement à la guitare dans un petit spectacle qu'il avait qui s'appelait « Chansons françaises ». Donc on nous a proposé cette chose et on s'est dit pourquoi pas, oui c'est une bonne idée, ça nous ferait une autre corde à notre arc. Et puis moi j'ai baigné dedans depuis tout petit, quoi. J'ai pas eu à me forcer pour aller vers ça. Et puis en repensant à cette chose, tout d'un coup on s'est dit mais effectivement ça va être une année jubilée puisqu'on est arrivé dans les 30 ans ou les 90 ans de sa naissance, enfin Brassens aurait eu 90 ans en 2011, tu vois. Donc on s'y est mis, on a créé ce spectacle un peu avec des moyens très pauvres, hein, il faut le dire, avec très très peu de choses. Mais on l'a quand même fait, et puis stupeur, enfin, ou bonne surprise, quoi, cette chose a rejoint tout un courant de... Voilà, on a été sollicité par toute cette mouvance de Brassensomane, on va dire, mais aussi de tas de gens qui... parce que c'est incroyable, enfin moi j'en fais partie de ces Brassensomanes d'une certaine manière, je suis pas un ayatollah, mais j'ai toujours adoré ça. Et en même temps, on découvre qu'il y a ces fans, ces gens qui sont un petit peu piqués. Et puis il y a aussi une immense popularité de ce bonhomme, absolument immense. C'est-à-dire que même quand les gens ne sont pas comme ça, même quand ils sont agacés par lui, parce que ça existe aussi, il y a des gens qui en ont marre, un peu à cause de ça d'ailleurs, à cause qu'on leur rebatte les oreilles avec ça, et ils connaissent quand même quelques chansons par cœur, ce qui est la plus belle chose qu'on puisse... imaginez pour un chanteur, quoi.
Bien sûr. Et alors vous êtes intéressé vraiment à cet album s'intitule Chez Jeanne, et c'est la jeunesse de Brassens.
Oui, voilà, parce que, il faut dire, il y a eu un autre déclic aussi, mais qui était bien antérieur, enfin, qui était là une une découverte personnelle, c'est il y a à peu près une dizaine d'années, quand il y a eu justement les 20 ans, enfin les, ou les 80 ans comme on préfère, est sorti un livre formidable édité par Janine Marc-Pezet, voilà, qui est une grande dame de la radio. Et ce livre, ça réunissait toutes les lettres que Georges Brassens avait écrites à Roger Tousnot, qui est un ami lyonnais, philosophe à lui. Et cette correspondance est extraordinaire, quoi. Et c'est ça, moi, qui m'a fait découvrir un Brassens que je ne connaissais pas, un Brassens très humaniste, non-violent, anarchiste, disons libertaire dans le sens le plus noble du terme. Quelqu'un que d'une culture impressionnante, ayant quasiment tout lu, des philosophes contemporains et passés, Bergson, Gide, Nietzsche, ayant dévoré toute la poésie, tous les romans. C'est-à-dire que finalement, il a passé, je pense, à peu près, grosso modo, disons, de 43, ou même plutôt, même de 39 à 47, il a passé presque une décennie à ne bouffer que des nouilles et à lire des bouquins et à fumer.
Ouais.
Voilà. Et en plus, moi, il a cultivé des amitiés, mais des amitiés vraiment avec, en vivant dans le dénuement le plus total, quoi.
Oui, c'était quand même une période de guerre, donc c'était une bonne manière de lutter aussi.
Il est arrivé juste avant la guerre à Paris. Il y a eu la petite parenthèse du STO,
ouais,
qui a duré un an, je crois. Enfin, qui n'était pas vraiment une parenthèse, d'ailleurs, parce qu'il continuait à lire.
Mmh.
Il continuait à lire, puisque il y avait une bibliothèque au camp de travail, qui était d'ailleurs tenue par un type qu'on surnommait le poète. Et pour la drôlerie de la chose, ce poète, c'était en fait un comptable. Et ce comptable est devenu d'ailleurs l'agent de Brassens, Gibraltar. Voilà. Alors c'est truffé de petites histoires comme ça.
Bah, on peut en écouter une, la première, celle qui ouvre ce CD donc sur Brassens, comme des bras ouverts.
Voilà qu'un moustachu, un chevelu, un drôle de type avec une pipe et des grands yeux un peu écartelés. Des boules à comme l'angeur te bise au milieu du showbiz dans les années 50 pour secouer le cocotier. Se foutant des gros mots, maniant le gros mot comme s'il avait écrit depuis 1000 ans. Question vocabulaire, il en connaissait un rayon. Maître François Villon ne l'aurait pas désavoué à non créneau de nom. C'est pas notre spécialité de nous faire enculer, surtout pas chez les Grecs, mais s'avouer que leur bibliothèque regorge de trésors cachés, meilleurs que steak caché pour donner vitamine et dynamisme à un récit. Si la seule famille rédocie, et bien souvent l'énergumène usé du phénomène, visitant nos folles du logis en compagnie des grands de leur mythologie. Vénus, Héros et Cupidon se tapaient le bidon, Bacchus et le grand pan, Edel et Sacripan, Saturne affolait les mémés. Ça faisait un drôle de mélange, mêlant Satan et l'ange, l'eau claire de la fontaine avec les mots d'argot de dard. Le gars qui écrivait des polars, c'était pas le dard de Satan, quoique Satan le dard d'écouter ce cochon raconter ses histoires. Bras comme des bras ouverts, sens comme le mot sincère. Sous l'affreux jojo dont je vous cause, se cachait un rosier plein de roses. Ah, le beau bonhomme, ah, quel bonhomme que celui-là. Bras comme des bras ouverts, sens comme le mot sincère. Sous l'affreux jojo dont je vous cause, se cachait un rosier plein de roses. Ah, le beau bonhomme, ah, quel bonhomme que celui-là. Si bien que sans calvitie, ça fait un bail que je biche à ouïr ce pornographe. Ce gorille à guitare qui sortait du mitard tous nos besoins de liberté qu'on avait foutu en carafe. Et déjà tout gamin, j'arpentais le chemin que prend le 58 de la porte d'Ido à la rue d'Alésia, espérant croiser ce colosse, mais je l'avais dans l'os, j'en prenais pour mon grade vu que ce genre de plantigrade ne sort jamais de sa tanière, c'est pas dans ses manières d'aguicher le chaland. L'été plutôt manouche et nonchalant. Le 9, un place Florimont, l'entend fut l'horizon départ de mes 15 ans, car j'écrivais déjà des vers qui valaient pas 1 an. Chacun veut trouver son mentor, on court après à tort. Mes vers de luste cru, mieux vaut qu'il ne les ait pas lus. Pourtant j'allais minot l'entendre à Bobino. J'étais ravi de cœur à voir ce descendant d'Hercule et du merle moqueur. Et si je suis ce soir devant le rideau noir à faire devant vous le gratteur de jambon au garde à vous, c'est pour parler de lui sans qu'il n'aurait pas lui pour moi la belle étoile qui vous fait pressentir au loin la voix. Bras comme des bras ouverts, sincère comme le mot sincère. Sous l'affreux joujou dont je vous cause se cachait un rosier plein de roses. Ah le beau bonhomme, ah quel bonhomme que celui-là. La la, bras comme des bras ouverts, sincère comme le mot sincère. Sous l'affreux joujou dont je vous cause se cachait un rosier plein de roses. Ah le beau bonhomme, ah quel bonhomme que celui-là. La la, comme le mot sincère.
Et bien voilà, c'est le morceau qui ouvre en fait cet album chez Jeanne, La Jeunesse de Brassens. Et donc on va pouvoir suivre Brassens dans cet album. On peut l'écouter d'une seule traite, hein, et on suit ce petit bonhomme dans les rues de Marseille et on le voit débuter la chanson.
Oui, on l'a conçu un petit peu voilà, comme ça, comme une. C'est une photo du spectacle. Le spectacle lui-même, c'est un enchaînement, une alternance de récits de toute l'enfance de Brassens à 7, de l'adolescence, des années de guerre. Ça s'arrête effectivement en 52, c'est-à-dire le moment où il démarre dans la profession. Et on a essayé de garder un peu cette photo du spectacle. Donc on peut écouter ça effectivement comme une émission de radio ou je sais pas, ou un reportage.
On l'a écouté d'ailleurs intégralement. Vous nous aviez signalé ça. Et le lundi qui a suivi vraiment la journée anniversaire, je crois que c'était en novembre.
Fin octobre.
Fin octobre.
Ouais, oui,
voilà.
Ça devait être le tout 29 octobre. Voilà. C'était l'anniversaire. Ben, ça devait être un vendredi, je crois. Voilà, donc vous avez dû diffuser ça le lundi.
On a diffusé ça le lundi.
Voilà.
On a diffusé une heure de... Ouais, ça fait pile une heure de radio. Donc c'est absolument parfait. Je le dis pour les collègues aussi. Hein. et puis vous êtes aussi un homme de radio parce que je crois savoir que vous faites une émission consacrée à la poésie.
Voilà. Ah, plutôt à la vie des poètes.
Hein. Ouais.
C'est-à-dire que j'ai créé il y a à peu près une dizaine d'années à Montpellier avec d'autres comédiens ou passionnés de poésie, une émission, enfin d'abord une brigade d'intervention poétique. Donc c'était un groupement de brigands paroliers, on va dire comme mm-hmm. ça, qui font des interventions surprises.
Vous avez un petit côté activiste hein, qu'on
oui,
ne soupçonne
bah ouais,
pas.
Oui, on ne se guérit pas toujours de ces bobos d'enfance, voilà. Et puis, à une époque donc, où on avait moins de demandes sur le terrain, c'est-à-dire on est beaucoup intervenu dans les écoles, dans la rue, dans toutes sortes de manifestations, dans des événements. L'exemple de Desnos, qui était un grand homme de radio, mm-hmm. m'a fait penser qu'on devrait se servir du média hertzien, parce que ça permet de toucher un nombre incroyable de gens. D'ailleurs, Desnos, en blaguant, disait « Je suis le poète le plus écouté de France mm-hmm. ». Effectivement, personne ne rivalisait avec lui. Et, excusez-moi, je suis un petit peu... voilà, un petit peu pris des bronches, là, ce matin.
Et, ça va se résoudre.
Ça va se résoudre. Et donc, oui, effectivement, on a une émission tous les 15 jours où on fait, pendant une heure, on raconte la vie d'un poète. Mmh. Alors en général, c'est une sorte de feuilleton parce que c'est très difficile de raconter la vie d'un poète en une heure. En général, c'est au moins 2 heures, 3 heures, voire 4 heures. Et à chaque fois, c'est le récit très documenté de sa vie, avec évidemment des textes, des musiques aussi en alternance. Mais voilà, donc on s'est rendu compte, enfin je me suis dit, le biais, le roman de la vie de chaque poète peut être un biais qui donne envie aux gens de connaître leur œuvre. Mmh. Et c'est comme ça qu'on a procédé depuis 4 ans. Donc il y a d'ailleurs, on peut les écouter sur mon site, ces émissions, on les met en archive.
Voilà.
En général, un mois ou deux après leur première diffusion. Et il y a à peu près une trentaine d'émissions. En gros, je peux vous dire quelques grands noms. Évidemment, Desnos, Char, Raymond Queneau, Prévert, Vian, mais aussi des gens beaucoup moins connus comme César Vallejo. Marina Tsvetaeva, c'est très connu pour les amateurs de poésie, mais en France, on connaît moins. Akhmatova, qui est une grande poétesse russe. Vladimir Mayakovsky, évidemment. Roland Dubillard, Armand Gatti.
Ah.
Voilà. Et on prépare notre prochain numéro sera sur Georges Perros. Voilà.
D'accord. Gaston Coutet, vous n'avez pas envie de vous y intéresser ?
Si, non, c'est pas du tout une question d'envie. C'est pas du tout une question d'envie. C'est plutôt que. D'abord, on a une masse énorme.
Oui, j'imagine.
Vous vous rendez compte, le domaine poétique, je crois que c'est un truc. Moi, je pourrais vous citer, je ne sais pas, au moins 200 ou 300 poètes majeurs, dont je pense que l'œuvre est importante. Et après, il y a aussi l'autre problème, c'est la biographie.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il faut arriver à faire un récit très circonstancié pour intéresser les gens à travers des anecdotes, à travers des tas de petits faits marquants et qui révèlent aussi le personnage. Donc, il faut trouver des sources, voilà.
Voilà. Alors, c'est sur Radio Clapas, hein, c'est ça ?
Absolument. Clapas, c'est. Alors, je sais, on peut l'écouter en podcast aussi si
oui,
on va
oui,
sur le site.
C'est à Montpellier. Mais bon, de toute façon, c'est www.michelarpatz.com.
Voilà.
Et sur ce site, on trouve tout. On trouve vos prochaines dates de concert, qu'on va donner d'ailleurs. Vos prochaines dates de concert, c'est quand on va vous retrouver. Alors, pour Paris, pour les Parisiens qui nous écoutent, vous allez jouer le spectacle Arbatz de A à Z, toujours avec le même complice d'ailleurs qui vous accompagne pour le Brassens.
Olivier Roman Garcia.
Voilà, Olivier Roman Garcia et vous. Vous serez le 14 février 2012 au 20e théâtre à Paris et le 15 février au Limonaire, un resto très sympa dans le 9e où les gens chantent aussi. Voilà, deux dates pour Arbatz de A à Z. Et puis pour le Brassens, vous allez le jouer ?
Eh bien, on sera la veille des deux dates dont vous avez parlé. C'est-à-dire le 13, le lundi 13 février, on sera au Théâtre du Petit Saint-Martin pour jouer chez Jeanne, donc le spectacle sur la jeunesse de Brassens.
Voilà, une petite série parisienne. Et puis, pour les non-parisiens, ils vont sur le site. Les non-parisiens qui nous écoutent de toute façon sur Internet sont déjà devant leur ordinateur, donc ils n'ont qu'à aller voir par eux-mêmes, sinon vous allez jouer un petit peu dans de beaucoup d'endroits de France. Hein,
on joue à Montauban également le 9 février. Mm-hmm. Je le dis parce qu'en fait, je me suis rendu compte à travers la pratique de la radio que les distances n'ont plus trop d'importance, puisque avec Internet, tout le monde peut
c'est
se prévenir. On peut prévenir des amis qui sont à l'autre bout de la France. Et on a même écouté très largement à l'étranger avec cette émission, jusque dans le Missouri et à Shanghai, paraît-il.
Mmh. Voilà.
Excusez-moi.
Michel Arbatz, artiste international. Absolument. Qui tous, mais néanmoins,
vous
je
m'avoue.
Voilà, tout va être de ma faute. Donc à Montauban, entre autres, on pourra vous voir. Et puis alors, voilà, je le dis parce que je vous ai découvert vraiment sur scène. Moi, je connaissais les disques et c'est un vrai plaisir quand même. C'est un vrai plaisir.
Merci.
Parce qu'il y a vraiment un jeu avec le public. On entend mieux. Je sais pas comment vous dire, mais on entend vraiment mieux parce que
Le simple fait de voir quelqu'un parler, c'est que c'est comme dans un film, si vous voulez. On se rend pas compte, mais la communication aussi visuelle est extrêmement importante, ne serait-ce que de voir les mouvements de la bouche, et puis
tout le corps aussi, parce que vous êtes comédien, quelque part, pas quelque part.
Des signaux qui facilitent la communication, bien sûr.
Oui, et puis il y a vraiment un jeu. Voilà. Vous aimez beaucoup les ballets?
Oui. Les ballets contemporains, mais aussi les ballets en paille.
Voilà.
Oui.
Qui sont des accessoires, qui sont des instruments de musique.
Dans tous mes spectacles, il y a au moins un ballet.
De votre côté sorcière, ça.
Voilà.
C'est... Voilà, mais voilà, il faut aller voir pour ça aussi. Et puis parce qu'aussi, on mesure mieux la performance vocale qu'est notamment dans le spectacle AZ que j'ai vu, où on se rend compte qu'il y a vraiment non seulement l'amour des mots et puis l'amour des mots qui vous embarque, qui nous embarque. On a vraiment l'impression que c'est un fil que vous tirez et que c'est presque naturel, mais en même temps, c'est une vraie performance. Enfin, c'est d'une part, je pense, des années de pratique, mais aussi, enfin voilà, c'est un exercice de mémoire, et puis c'est vraiment un peu comme surfer sur une vague.
Bon, écoutez, n'en rajoutez pas trop, parce qu'en entendant ma voix, les auditeurs vont penser que disons, ça fait des ravages, cette façon de procéder.
Non. Bon, on va en écouter peut-être. Alors, je ne sais pas ce qui est prévu, mais moi, j'ai envie qu'on écoute la plage 1 de Michel Arbat, de A à Z. Ça s'appelle « Papa vend du vent » et c'est une chanson qui reste tout à fait d'actualité.
Monsieur le directeur du FBI, je suis venu avec mon frère Abel. Vous causez de notre papa Cain. Méga souci avec sa banque, avec la banque Bill. Papa, depuis 20 ans, vendait du vent, des pets de nonne et des pets de lapin, des courants d'air, de la poudre à perlimpinpin. Et nous avons du vent qu'il vendait du vent. Bien sûr, il avait l'air parfois un peu Nasdaq, mais tout le monde appréciait ses auction blocks en paquets. Toute la jet set, etc. Venez se jeter dans ses bras. Tous les gogos allongeaient les bifetons pour avoir des actions bidons. Que faut-il faire? Que faut-il faire? C'est pas rigolo de dénoncer son père. Monsieur le directeur du FBI, la société de papa est en débit. Personne encore n'est au courant du coup. Mais papa a bouffé les dividendes avec ses dents de loup. Faut dire qu'il avait aussi du génie. Partout les Golden Boys étaient bénis. Et puis c'est une sacrée idée, dis donc, quand y a plus de pétrole, de vendre du vide en bidon. Bien sûr, ça fera des mécontents du compte en banque. Ça rendra peut-être hargneux les épargnants. Gnan, gnan. La confrérie des écureuils va avoir les noisettes en deuil. Les gens aiment pas qu'on leur touche au grisby. Le moindre petit poussin devient grisly. Que faut-il faire? Que faut-il faire? C'est pas rigolo de dénoncer son père. Tout le monde est mad of money. 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 Monsieur le directeur du FMI, voyez dans quel beau drap papa s'est mis. Le vent n'a pas ouvert, attend son parachute. Pour un vendeur de vent, c'est pas de chance, ah, femme de pute. On l'avait prévenu de l'Ashkoumoun, le vent qui fait tourner les moulins tourne. Les mauvais coups juteux sont les plus brefs. Dès qu'ils font du bénéf avec du zef, il n'y en a pas bézef. Bien sûr, demain matin à Wall Street on sera triste. Un escroc de cet acabit, c'est quasi un artiste. Un funambule de la pépette qui risque de choper perpète. Que tous les grands appelaient mon petit rat et qu'on admirait aux Émirats. Que faut-il faire? Que faut-il faire? C'est pas rigolo de dénoncer son père. Tout le monde est man of money. Tout le monde est man of money. Tout le monde est mad 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 of money.
Voilà, tout le monde est mad of money. Ça, le refrain, on l'aime beaucoup. Ça s'appelle Papa vend du vent. Et c'est en fait lié tout à fait à un fait réel. Il se trouve que les deux fils de ce cher Madoff, il s'est suicidé, hein, c'est ça?
Un des deux s'est suicidé, oui, un an après ce. Finalement, c'est. Bon, c'est une sorte d'histoire tragicomique.
Ah, oui, c'est un truc.
épouvantable. Épouvantable, voilà. Bon, je ne pensais pas, d'ailleurs, j'ai fait la chanson bien avant. Évidemment, bien avant que ce jeune homme se, se suicide, ou ce jeune homme, enfin cet homme, enfin le fils Madoff se suicide. Ouais. Je pense pas que ça m'aurait donné le cœur d'écrire une chanson après.
Mmh. Voilà. Mais bon, ils ont quand même été dénoncés. Enfin, les deux fils ont été dénoncés.
Voilà. Et d'ailleurs, c'était, enfin, souvent on m'a dit, oui, alors c'est une chanson, voilà, engagée contre le. Moi, surtout, ce qui m'avait frappé, c'était le côté, voilà, le côté les deux fils qui vont dénoncer au nom de l'ordre le père, quoi. Voilà, c'était la première chose qui m'avait accroché, c'était ça. Après,
mais
ce qui m'avait accroché, c'était la comédie.
Ils l'ont dénoncé une fois qu'il était déjà bien cuit, hein, quand même.
Oui, oui. C'était une façon aussi de lâcher de quitter le navire au moment où il était en train de sombrer. Et puis aussi, ce que j'avais trouvé extraordinaire, c'était comment l'escroquerie était surtout une affaire de communication, quoi. Un bon escroc doit être quelqu'un en qui on doit avoir confiance, sinon c'est pas un escroc, quoi. Donc avec toute cette histoire de toute cette jet set artificielle créée à laquelle les gens suppliaient pour entrer dans ce c'était un escroc triple A, absolument. Voilà. Absolument.
Non, mais bon, oui, c'est une belle performance quand même, Madoff. Hein. Il a réussi à ruiner des gens ou à vraiment mettre un petit peu en difficulté des gens tout à fait respectables et respectés. C'était assez drôle d'ailleurs de voir tout ça tomber quand on regarde.
Bon, j'espère qu'on ne nous écoute pas à New York parce que vous allez vous faire attendre au coin des rues avec un pistolet parce qu'il y a des gens qui ne plaisantent pas du tout avec cette affaire. Voilà.
Enfin, une mort respectable et un petit peu glorieuse. Très bien, merci. J'espère que ça va marcher, au moins que ça serve à quelque chose. Mais alors, qu'est-ce qui vous inspire pour les chansons? C'est pas forcément l'actualité, hein, mais c'est toujours. Enfin, alors, on dit engagé, je sais pas si c'est engagé ou pas, mais alors, j'ai vérifié, elle est pas dans l'album A à Z, mais dans le spectacle, il y a une chanson sur le nord, le sud, l'est et l'ouest.
C'est pas une chanson, c'est un texte.
Oui,
en
voilà,
fait. C'est un texte, oui, c'est une sorte de sketch un petit peu. Mais non, effectivement, parce que j'ai toujours hésité, enfin, sauf là pour le Brassens où il y avait une sorte de, comment dire, de fil rouge qui faisait qu'on suivait l'alternance du récit et puis qu'il y a un sujet unique, quoi, qui est cet homme, quoi, l'histoire de la vie de Brassens. Pour le reste, j'ai toujours hésité à mettre des textes en audio parce que je trouve que, pour moi, ça passe pas, quoi, c'est très lié à la scène. Voilà, peut-être ça se fera un jour si, je ne sais pas si un jour je ferai un DVD, il faut, pour avoir les moyens de réunir, de quoi faire un bon DVD, à ce moment-là, oui, je mettrai ça dessus, mais pas uniquement en audio, voilà. Donc effectivement, alors d'où ça vient, ben, le texte dont vous parlez, qui se trouve d'ailleurs dans un livre, dans le livre-disque d'un album qui s'appelait Retrouver le Sud, parce qu'on a sorti une version avec plein de textes qui étaient autour de ce spectacle, le texte s'y trouve. Et le texte a été inspiré par un autre texte qui était un texte de Jacques Lacarrière, comme je le dis d'ailleurs dans je le dis, mais bon, on ne le relève pas.
Ah, mais moi, Lacarrière, c'est uniquement l'été grec pour moi, donc.
Oui, mais il a écrit plein de choses extraordinaires, dont un petit texte qui était très drôle, qui s'appelait La table de désorientation, et qui commence justement par ce que je dis. C'est-à-dire, je le cite, je dis, comme disait l'écrivain Jacques Lacarrière, prenez le mot, ajoutez ou à est, vous avez ouest, et tout le texte est le texte de Lacarrière est un petit développement autour de cette idée de où est l'est, où est l'ouest, et avec ce jeu de mots savoureux où il dit, on se réfère toujours à Greenwich, mais c'est une absurdité totale puisque Greenwich, littéralement en anglais, ça signifie vert et quoi. Donc, voilà. Et après, je me suis donné le pari de continuer ce texte en glissant sur l'opposition nord-sud.
Eh, voilà. C'est pas mal. Juste la chute, vous nous faites juste la chute.
Oh, la chute, brûle pour point comme ça. Les derniers mots, c'est tout ça pourrait s'arranger. Au fond, il suffirait peu de choses pour rétablir la chose. Le sud, s'il acceptait de donner un peu de son de sa nudité au nord. Le nord, s'il acceptait de perdre son grand air et de se mettre à l'envers, ça pourrait devenir le pays du don. On pourrait alors avoir la proposition suivante. Si le Nord se dénude, alors le Sud s'en sort, c'est sûr. Oh, ça sera dur. Ça sera très très dur, mais ça sera de l'or.
Eh ben merci. C'est savoureux. Moi, j'aime bien. J'aime bien et voilà. Je trouve que ça illustre très bien la manière dont finement vous amenez des choses parce que là, bon, c'est pas de la chanson militante, mais on peut pas dire que c'est de la chanson dénuée de tout sens non plus. Et puis, il faut venir aussi vous voir en spectacle parce qu'on découvre que vous êtes parfaitement fluent in English.
Yes, I can make this interview in English if you like.
No, thank you. It will be too difficult for me.
Ok, bah, je crois que tout le monde nous comprend quand même.
Voilà, mais je parle anglais comme vous, donc je comprends exactement ce que vous dites. J'aime beaucoup les gens qui parlent anglais comme ça. Les Indiens le font très bien aussi en général. Ils parlent anglais un peu comme ça. Et c'est,
absolument.
Voilà, c'est assez rigolo. Donc, d'où vous est venu cet appétit pour l'anglais comme ça tout d'un coup?
Je ne sais pas. C'était, si vous voulez, le spectacle que vous avez vu, en fait, l'idée de base est pour moi était de faire une sorte de... D'ailleurs, c'est le sous-titre du spectacle, qui s'appelle « Musical déglingué ». Je m'étais dit, ce qui me plaisait, c'était de prendre comme fil un petit peu, disons, formel. L'idée, le style du spectacle, c'est quelqu'un qui essaye de faire un super spectacle de musical, mais évidemment qu'il n'y a pas les moyens. Enfin, c'est, donc voilà.
Il y a une toute petite scène en bois.
Voilà.
Donc, une planche.
Et tout est comme ça. C'est-à-dire, il arrive en frac, mais il a, en même temps, il a un balai. Enfin, c'est, tout est fait avec du brick et du broc. Toutes les choses, qui essayent d'être un peu brillantes ne marchent pas. Et donc, évidemment, l'anglais faisait partie de l'arsenal, je vais dire, du cliché de l'arsenal du showbiz, du musical. Voilà, on dit c'est beaucoup plus, c'est le must.
Voilà.
C'est-à-dire que c'est le must de bien parler anglais sur scène, et c'est la langue internationale des affaires.
Alors, est-ce que Brassens parlait anglais?
Alors, je pense qu'il y a des petites citations, Forget Me Not, par exemple, je pense qu'il savait l'anglais, il ne devait pas le parler, mais il est allé quand même chanter à Londres, il y a même un disque qui témoigne de ce passage, je ne sais pas, en fait, je n'ai pas ce... Enfin, en tout cas, il ne le pratiquait pas, hein. Il pratiquait suffisamment bien le français, et puis il était, c'était son univers, quoi.
Ben on va le retrouver justement, Brassens, dans un deuxième extrait de Chez Jeanne.
Tu n'es pas de celles qui meurent où elles s'attachent. Tu frottes ta joue à toutes les moustaches. Faut se lever de bon matin pour voir un ingénu qui ne t'est pas connu. Entrée libre à n'importe qui dans ta ronde. Cœur d'artichaut, tu donnes une feuille à tout le monde. Jamais de mémoire d'homme, moulin n'avait été autant fréquenté. De Pierre à Paul, en passant par Jules et Félicien. Embrasse-les tous, Dieu reconnaîtra le sien. Passe-les tous par tes armes, passe-les tous par tes charmes. Jusqu'à ce que l'un de les bras en croix tourne de l'œil dans tes bras. Des grands aux petits, en allant jusqu'aux Lilliputiens. Embrasse-les tous, Dieu reconnaîtra le sien. Jusqu'à ce qu'amour s'en suive, qu'à son cœur une plaie vive. Le plus touché d'entre nous demande grâce à genoux. En attendant le baiser qui fera mouche, le baiser qu'on garde pour la bonne bouche. En attendant de trouver parmi tous ces galants le vrai merle blanc. En attendant que le petit bonheur ne t'apporte celui derrière qui tu condamneras ta porte. En marquant dessus fermé jusqu'à la fin des jours, pour cause d'amour, de Pierre à Paul, en passant par Jules et Félicien. Embrasse-les tous, Dieu reconnaîtra le sien. Passe-les tous par tes armes, passe-les tous par tes charmes, jusqu'à ce que l'un de les bras en croix tourne de l'œil. Dans tes bras, des grands aux petits, en allant jusqu'aux Lilliputiens. Embrasse-les tous, Dieu reconnaîtra le sien. Alors toutes tes fredaines, guilleux doux et prétentaines, tes écarts, tes grands écarts, te seront pardonnés, car Les filles, quand ça dit je t'aime, c'est comme un second baptême. Ça leur donne un cœur tout neuf, comme au sortir de son œuf.
Voilà, c'était un extrait de chez Jeanne. Alors, comment vous avez travaillé pour faire ces textes? Il y a à la fois la biographie, alors là, on ne va pas en entendre, mais les auditeurs fidèles la connaissent puisqu'ils l'ont déjà entendue. Vous racontez la vie, et puis ces textes, ils sont venus comment après ces chansons?
En fait, c'est d'abord les textes qui sont... Les textes ont été avant les chansons. C'est-à-dire, moi, j'avais déjà un choix, de cœur pour les chansons que j'adore. Enfin, celle-là, par exemple, en est une, quoi. Embrasse-les tous, pour moi, c'est un des bijoux de Brassens. Donc, je voulais la mettre, ça, c'est sûr. Après, j'ai commencé, j'ai lu beaucoup de biographies différentes. Et puis, j'ai commencé à bâtir le récit en essayant de trouver un ton, surtout. Voilà. Et donc, par exemple, cette chanson... Après, les chansons sont venues en écho au récit. C'est-à-dire, j'ai fait une sorte de... je ne sais pas si on peut appeler ça un storyboard, puis c'était pas dessiné, mais c'est dans ma tête, j'avais fait un découpage séquence par séquence pour qu'elle soit pas trop longue. C'est des séquences qui durent 2-3 minutes maximum. La plus longue doit faire 3 minutes et demie, la séquence de récit. Et à chaque fois, il y a une chanson qui vient un petit peu en écho. C'est pas forcément une chanson qui est dit exactement ce qui est dit avant, mais qui a rapport avec. Ouais. Voilà. Donc, par exemple, Embrasse-les tous, elle vient juste au moment où je raconte les premières rencontres amoureuses de Brassens. Et évidemment, la première truc qui vient à l'idée, c'est la première fille qu'on a prise dans ses bras. Et je me suis dit, non, justement, faut pas mettre celle-là, mettons plutôt autre chose. Mettons Embrasse-les tous, et que Embrasse-les tous peut être aussi le portrait d'une femme un petit peu, voilà, comme on est dans l'adolescence, on essaye un petit peu tout, et voilà, et ça collait aussi bien, et je préférais mettre celle-là que l'autre. Et ainsi de suite, c'est toujours venu comme ça, c'est-à-dire les chansons sont venues toujours pour être une espèce d'écho, mais pas direct, un petit peu décalé à la chose. Et puis, parfois, j'en ai fait aussi, il m'est arrivé d'en fabriquer pour la circonstance. Mmh. Voilà.
Je me disais bien aussi. Alors, le titre de cet album, c'est chez Jeanne. Vous nous rappelez qui était Jeanne ?
Alors, Jeanne a été la... Jeanne, c'était une dame très modeste qui habitait dans le quartier de la tante de Brassens, puisque Brassens a été envoyé par ses parents, après une petite histoire un peu scandaleuse à 7, pour se faire oublier chez la tante Antoinette à Paris, rue d'Alésia. Et chez cette dame, chez cette tante, il y avait une femme qui venait faire des travaux de couture, qui s'appelait Jeanne Planche, qui habitait un petit peu plus loin dans le quartier. Et cette femme a tout de suite vu, parce que Brassens jouait du piano à l'époque chez la tante, écrivait, quelque chose s'est passé entre ces deux personnes. Quoi. Jeanne était beaucoup plus âgée que lui, elle avait 30 ans de plus que lui, mais elle lui a fait confiance, quoi. Elle a senti qu'il avait un don poétique. Quoi. Et lui aussi était certainement fasciné par cette femme, qui était très belle d'ailleurs. Et donc il y a eu une histoire d'amour, je pense, entre eux. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est que quand Brassens est revenu, enfin, est venu en permission du STO en France, et il a décidé de ne pas retourner. Donc, d'une certaine manière, il était réfractaire, quoi, et recherché. Exactement. Et à ce moment-là, il a commencé à habiter chez Jeanne et Marcel. D'ailleurs, le mari de Jeanne qui était là, qui, bon, c'était un couple qui s'était... chacun menait sa vie de son côté, quoi. Et donc, cette curieuse association à trois a vécu là, dans cette petite impasse du 14e, dans un tout petit endroit tout à fait improbable, une espèce d'impasse. Il n'y avait pas l'eau courante, il n'y avait pas le gaz, il n'y avait pas l'électricité. Et c'est là que Brassens a vécu, mais il a vécu là jusqu'à ce qu'il démarre en 52. Mais il a continué d'y vivre, il a même racheté cet endroit. Puis ensuite, et c'est grâce à Jeanne et à Marcel qu'il a tenu le coup pendant toutes ces années de galère. Bon, puis après, grâce aussi aux copains du milieu anarchiste qui l'ont aidé. Mais il faut bien dire qu'il n'y aurait pas eu de Brassens s'il n'y avait pas eu Jeanne. Voilà.
On écoute justement chez Jeanne.
Chez Jeanne. La Jeanne, son auberge est ouverte aux gens sans feu ni lieu. On pourrait l'appeler l'auberge du bon Dieu. s'il n'en existait déjà une. La dernière où l'on peut entrer sans frapper, sans montrer patte blanche. Chez Jeanne, la Jeanne, on est n'importe qui, on vient n'importe quand, et comme par miracle, par enchantement, on fait partie de la famille. Dans son cœur, en se poussant un peu, reste encore une petite place. La Jeanne, la Jeanne, elle est pauvre et sa table est souvent mal servie, mais le peu qu'on y trouve assouvit pour la vie. Par la façon qu'elle le donne, son pain ressemble à du gâteau et son eau à du vin comme deux gouttes d'eau. La Jeanne, la Jeanne, on la paye comme on peut, des prix mirobolants, un baiser sur son front ou sur ses cheveux blancs, un semblant d'accord de guitare, l'adresse d'un chat échaudé ou d'un chien tout crotté comme pour boire. La Jeanne, la Jeanne, dans ses roses et ses choux, n'a pas trouvé d'enfant qu'on aime et qu'on défend contre les quatre vents, et qu'on accroche à son corsage et qu'on arrose avec son lait, contre qu'elle en serait toute chagrine. Jeanne, la Jeanne, ne s'en soucie pas plus que de Colin Tampon. Être mère de trois poules piquées, à quoi bon, quand elle est mère universelle, quand tous les enfants de la terre, de la mer et du ciel sont à elle.
C'était donc chez Jeanne. Jeanne, qui avait-elle réellement une canne?
Oui, elle avait réellement une canne. D'ailleurs, il y a des photos de Jeanne avec sa canne dans ses bras. Il y avait plein d'animaux dans cette cour, des chats, des chiens, des oiseaux. Je crois qu'il y avait un canari. Il y avait aussi cette canne, cette fameuse canne.
Très bien. Donc, il nous reste 3 minutes pour conclure, pour cette fois, parce que vous reviendrez nous voir. Alors, vous m'avez apporté un petit livre, Michel Arbatz. Ça s'appelle Z. Entre parenthèses, Nativité, c'est paru aux éditions Le Temps qu'il fait. Je crois qu'on peut le trouver en vente sur votre site.
Absolument.
Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce livre?
Eh ben, c'est un poème d'une quarantaine de pages qui parle de l'événement que je pense être le plus bouleversant pour un homme comme pour une femme, c'est la naissance d'un enfant. Voilà, donc c'est dit en 3 mots, c'est ça.
Voilà. Ah,
c'est... Et je crois que d'ailleurs, comme le thème du Printemps des Poètes cette année, c'est l'enfance, ce texte a été choisi dans la bibliographie de référence du Printemps des Poètes. Moi-même, j'en donnerai une lecture, je crois, le 15 mars au musée de Cluny, à Paris.
Voilà.
Mais je vous le redirai d'ici
dirai.
Là, parce qu'on a le temps d'oublier ça 1000 fois, et il y a plein de choses qui vont se passer d'ici là.
Voilà. Qu'est-ce qu'on peut annoncer d'autre avant de se quitter? Ben, qu'on peut retrouver bien sûr l'album Brassens chez Jeanne, la jeunesse de Brassens, on peut se le procurer sur le site bien sûr, de même qu'on peut se procurer aussi Arbatz de A à Z, ce disque dans lequel il y a toutes les chansons du spectacle, puis on peut quand même venir vous voir, ça c'est quand même très 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 important.
Voilà, aussi par rapport à la parution du Moulin du Parolier, que je continue à donner des ateliers d'écriture et que j'en ferai un justement à la mi-février à Paris.
Je crois
que c'est le week-end qui suit les dates que vous avez dites. Donc, si je sais bien compter, 13 au Petit Saint-Martin, 13 février au Petit Saint-Martin avec chez Jeanne, 14 et 15 de A à Z au 20e Théâtre et au Limonaire, et puis ça doit être le 18 et le 19 peut-être février, le samedi dimanche, il y a un stage et on peut s'y inscrire par le biais du site aussi.
D'accord, ça se passe
où ? Un atelier d'écriture, ça se passe à Vincennes.
D'accord, bah très bien, hein, c'est parfait ça. Un atelier d'écriture, c'est réservé à ceux qui veulent se destiner à la chanson ou est-ce que...
C'est réservé à ceux qui aiment écrire.
Voilà,
voilà, donc
et les débutants
professionnels
peuvent venir,
tout le monde
si...
absolument, voilà. J'ai toujours pratiqué ça, les mélanges, il n'y a pas de, comment dire,
pas de
prérequis
niveau,
comme on dit
de...
quoi. Ouais.
Hein. Ah bah
au contraire, je pense que le groupe stimule les différences de chacun et c'est très très bien de voir, il n'y a pas de, comment dire, chacun fait son chemin, il n'y a aucune référence chez les autres quoi. Il faut suivre son propre chemin, point final.
Ouais, final ou pas d'ailleurs. Vous avez vos premiers textes, c'était tout seul dans votre coin ou c'était en groupe avec des gens?
Je crois que c'était tout seul effectivement, mais c'était très très jeune quoi, c'était, et puis beaucoup par imitation, je crois on avance beaucoup aussi par imitation.
Mmh. Le premier que vous avez imité, c'était qui?
Oh, je sais pas, c'était plutôt des poètes moi que j'imitais, ouais. Quand j'étais ado, c'était voilà, des surréalistes, c'était les Snos, les Vian, c'était de ce côté-là, quoi. Alors, on va dire, pour simplifier.
Ben voilà, ben vous reviendrez nous raconter tout ça, parce qu'on n'a jamais assez de temps pour se parler. Donc, en tout cas,
D'accord. Merci
beaucoup d'être venu nous voir ce matin, même en roué. Vous étiez là, et ça, c'est très sympathique. Michel Arbat, merci beaucoup. On retrouve toutes les infos qu'on a développées ce matin sur votre site www.michelarbat.com. Un grand merci également à Charlie Clovis, qui réalise cette émission. Salut, Charlie. Et on retrouve maintenant l'émission 27 étoiles avec Sébastien Niard et toute sa bande. Excellente journée à tous et je vous retrouve moi la semaine prochaine entre 8h et 10h pour un nouveau numéro de Liberté sur Parole.
La négresse qui danse encore à minuit dansera jusqu'à l'aurore, jusqu'à midi.